Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Hello, hello, bienvenue dans Parentalité autour d'un thé. Et si je vous proposais une petite discussion autour d'un petit thé bien chaud? À chaque échange, je serai accompagnée de professionnels, parents, jeunes ou enfants, pour aborder une thématique sucrée liée à la parentalité. Aujourd'hui, nous recevons trois profils. Et bien évidemment, nous allons commencer par la présentation de mes chroniqueurs préférés qui sont là pour mettre les pieds dans la tasse. Barberiche, Bouba.
De toute façon, tu peux dire que préféré, on n'est que deux.
Non, il y a un préféré, un favori.
Exactement, ouais, Benjamin.
J'aime bien ça, c'est bien. C'est...
Du coup, mon préféré, c'est Anne et mon favori, c'est Bouba. Mm-hmm. Présentez-vous, chers messieurs.
Bah, bonjour à tous. Barberiche, le préféré.
Et Bouba, le favori.
Ah, j'adore. Et aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder ensemble, c'est l'éducation de nos parents à prendre ou à laisser. Mais avant, je tiens à vous présenter mes invités du jour. Jasmine, comment tu vas ?
Ça va, merci. Et vous ?
Ça va, merci. Tu veux bien te présenter rapidement ?
Oui, alors je m'appelle Jasmine, j'ai 23 ans, je travaille dans la petite enfance et je suis en formation d'éducatrice de jeunes enfants.
Enchantée, Jasmine. Enchantée. Benjamin, comment tu vas ?
Eh bien, ça va bien, merci. Comment ça va, toi ?
Bah, très bien, ça va.
Il n'y a plus besoin que je me présente. Hein.
Oh, tu peux le faire un peu parce qu'on a toujours de nouveaux auditeurs.
Alors, bon, donc moi, je m'appelle Benjamin je dois dire mon âge maintenant parce que j'ai compris qu'il fallait dire son âge ici. Donc, j'ai 44 ans encore je suis intervenante dans le secteur social et notamment dans la protection de l'enfance. Et puis, je travaille aussi un peu sur la culture hip-hop, pas mal. Et puis, je suis maman d'une grande fille de bientôt 22 ans.
Merci, Benjamin. Sonia, comment tu vas, Sonia ?
Ça va, merci. Moi, j'ai 39 ans, donc c'est Sonia. Et j'ai deux enfants de 11 et 13 ans.
Merci, Sonia. J'ai promis de ne pas trop te faire parler, mais comme je suis une gamine, je ne vais pas respecter ma promesse. est-ce que vous voulez bien, pour commencer, nous parler de votre configuration familiale ? Commencez chez vous.
Moi ?
Ouais, vas-y.
Ok. Donc moi, Jasmine. Alors du coup, moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. J'ai grandi avec ma maman. J'ai pas de frère, pas de sœur du côté de ma mère. Et je dis famille monoparentale, mais parce que j'ai pas grandi avec mon père, mais j'ai grandi avec la famille de mon père quand même. Donc la famille de mon père qui est d'origine tunisienne et ma mère qui est égyptienne réunionnaise.
Ok. Barbeu.
Oh, c'est compliqué. j'ai vécu avec ma mère et mon beau-père.
Et la composition familiale des frères, des sœurs ?
J'ai eu l'apparition de frères, tardivement, mais j'ai grandi comme un fils unique.
D'accord. Benjamin ?
Et ben moi, mon prénom dit tout, parce qu'en fait, je suis la Benjamine de ma fratrie.
Ouais.
Et c'est pour ça que je m'appelle comme ça.
Ah, super.
Donc, je suis la dernière d'une famille de trois, avec une famille très traditionnelle, dans le sens où mes parents sont encore ensemble. Ils sont encore en vie d'ailleurs et donc j'ai grandi dans cette famille là et il se trouve que ma famille que moi j'ai construite, par contre j'ai élevé ma fille en mère célibataire.
D'accord, merci Benjamin. Sonia.
Moi mes parents sont toujours ensemble, hein, donc famille plutôt traditionnelle. J'ai des frères, pas de sœurs et puis modèle très très traditionnel en fait.
Et ta famille, celle que t'as construite aujourd'hui? Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu es dans une famille monoparentale ?
Pareil, moi j'ai reproduit la tradition. Je suis mariée, j'ai deux enfants, voilà.
Ok. Un couple mixte, pas mixte ?
Mixte, c'est-à-dire ?
Est-ce qu'il y a de la mixité culturelle ou autre ?
Oui. Moi je suis d'origine algérienne et je ne suis pas mariée avec un Algérien, je suis mariée avec un Français.
D'accord, très bien. Bouba ?
Famille traditionnelle, deux frères et quatre sœurs. Dont une qu'il faut que je retrouve, mais ça, c'est un autre débat.
Et la famille, et ta famille aujourd'hui ?
Ma famille, je suis papa, mais mes filles, j'allais dire mes sœurs, mais mes filles vivent avec leur maman et moi, je suis papa célibataire.
Ok. Une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Qui se lance pour nous parler de l'éducation qu'il a reçue ?
Moi, je vais commencer. J'ai eu une éducation très stricte.
C'est-à-dire ?
Très, très, très stricte. Très, très sévère. Très, très violente aussi. Très, très violente quand j'y pense. Parce que souvent, moi, quand je fais un bond dans le passé et je me souviens de certaines situations, je me dis aujourd'hui, là... Je crois que ma mère sera en prison carrément.
Ah ouais. Donc violence
en prison peut-être pas, mais en tout cas toi tu serais peut-être placé.
Violence verbale, physique, une éducation à la dure, sanction.
À la dure.
Jasmine.
Moi je dirais strict parce que ma mère elle a quand même essayé de faire les deux rôles. Elle a essayé d'être une maman et un papa. Donc elle était quand même stricte avec moi, mais j'estime qu'elle m'a toujours laissé le choix de faire ce que je voulais quand même. Elle avait sa solution, mais voilà, elle me laissait quand même le choix de faire ce que je voulais. Et si j'y arrivais pas, bah, c'était sa solution. Et voilà quoi.
Ok. Sonia, Benjamin.
Moi, assez stricte dans le sens où on était dans la tradition et on a été éduqués à la maghrébine, en fait. Donc, assez stricte pour moi qui étais la seule fille, un peu moins pour mes frères, ça c'est sûr et certain. Maman moins stricte que papa, en fait, je pense, comme dans beaucoup de familles. Donc, voilà.
Ok, Bouba.
On est de l'époque de la main légère, tu vois. La main légère, les objets légers... Et tout ça, tu vois, les objets volants
non identifiés.
Non identifiés.
Voilà, du coup, comme mon acolyte M. Barberis, si les services sociaux savaient, nos parents auraient des problèmes. Mais voilà, ma mère très douce, mon père, jadis, c'était très dur.
Ok. Moi j'ai une éducation à l'africaine avec les cultures, on devait respecter quand même les protocoles, le droit d'aînesse, strict, dur, mais dans la communication et l'ouverture quand même, une maman assez tolérante, mais quand même j'ai connu la pantoufle qui vole, l'éducation, comment... Alors déjà, qu'est-ce qu'on met derrière éducation ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot, l'éducation ?
Vas-y, Barberis.
Moi, l'éducation, pour moi, c'est déjà de la transmission, déjà, dans un premier temps. Transmission, échange, et le fait de mettre des règles. De mettre des règles et de transmettre du savoir. C'est ça, pour moi, l'éducation.
Ok.
Moi, c'est vrai que j'aime bien la définition de ex ducere, en fait, de l'éducation, c'est-à-dire guider vers l'extérieur, c'est apprendre à faire des adultes forts, enfin, justement, de pouvoir amener à ce qu'ils proposent quelque chose de nouveau dans le monde aussi. Enfin, il y a tout un enjeu presque un peu politique dans l'éducation, finalement, aussi, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on va donner comme image du monde, donc la transmission, comme tu le disais aussi, mais avec le côté des armes aussi, pour pouvoir faire face au monde et puis pour pouvoir aussi le faire évoluer.
Ouais, clairement.
Moi, je dirais que, en tout cas, pour ma mère, ça a été de m'apprendre à me débrouiller sans elle. Mais vraiment sans elle, puisque ma mère elle-même, elle est orpheline. Du coup, elle a vraiment tout basé sur mon autonomie. Très tôt, très jeune, j'ai dû apprendre on n'a pas de véhicule, donc apprendre les transports, à me subvenir à mes besoins, à aller chercher ce que je voulais. Elle a vraiment basé sur le fait que personne n'allait me donner quoi que ce soit, ni même elle. Donc il fallait que vraiment je sois très, très autonome. Donc la base de son éducation, c'était ça.
Ouais, ok. Bouba, Sonia.
L'éducation, je me suis jamais vraiment posé la question. Je dirais que pour moi, l'essentiel, c'est de transmettre ce qui est bien, ce qui est mal. Je pense que voilà, éduquer déjà les enfants, au final, s'ils savent ce qui est le bien et ce qui est le mal, c'est déjà pas mal. Et puis après, toutes les règles basiques, l'hygiène, etc., ne pas faire de mal aux gens. Pour moi, l'éducation, très basiquement, c'est ça.
Ouais. Et pour toi, Bouba ?
Moi, je dirais c'est communication, échange, amour. Il en parle souvent, Barberis, de l'amour. Parce qu'il y en a pas mal qui souffrent, enfin, qui ont des carences affectives hein, aujourd'hui. Hein. Tu vois, et je crois que les. Enfin, c'est même pas ce que je crois, mais c'est que les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui. Et du coup, on constate qu'il y en a plein qui. Ils ont des carences affectives, tu vois. Donc, je pense que l'amour, c'est le mot-clé.
Et du coup, aujourd'hui, quand on parle d'éducation, il y a un vrai sujet. Tout le monde se renvoie la balle. C'est les parents. Même on entend c'est l'école. Est-ce que on éduque seul ces enfants? Qui éduque?
Moi, sur cette question, je. Pour moi, même si il y a une réalité et que c'est vrai qu'il y a une coéducation qui existe, donc du coup les parents et toutes les personnes qui entourent l'enfant ou du coup qui seront sur le chemin de cet enfant. Mais pour moi, l'éducation première, celle des parents. Pour moi, c'est celle des parents et celle de dehors ou d'autres adultes ne doit pas se substituer à celle des parents. Ou en tout cas, pour moi, celle des parents doit être tellement forte que celle d'un autre ne doit pas pouvoir venir...
Entraver.
Ouais.
Ok, c'est ta définition.
Quand elle est bonne.
C'est,
hein.
Ouais, c'est ton point de vue.
Quand elle est bonne.
C'est vrai que c'est toute la... Là, je vais peut-être nuancer un petit peu si on me permet.
Bien
mais
sûr.
Parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Anne, de finalement, les parents sont, comme le dit d'ailleurs la loi de 2007, du 5 mars 2007, les premiers éducateurs de leur enfant. Mais ils ne sont pas les seuls, parce que les parents sont aussi, eux, pris. Enfin, j'ai envie de dire, en tant qu'adulte, on continue de s'éduquer, on continue d'avoir des influences, on continue aussi d'avoir un environnement qui nous impacte aussi. Donc, on n'est pas, en tant que parent, complètement déconnecté du reste du monde non plus. Et être parent, ce n'est pas forcément être toujours disponible. Et c'est là où, moi, j'aime bien ce proverbe qui dit « faut tout un village pour élever un enfant ». Et c'est tout l'enjeu, justement, de l'éducation au sens global. C'est qu'il y a les parents qui sont en première ligne. Hein, j'ai envie de dire, c'est les premières lignes. Mais derrière, il y a du soutien potentiel. Et c'est là où l'école vient combler certaines choses. Enfin, compléter, je vais dire. Vraiment compléter certaines choses. Parce que tout ne se dit pas en famille non plus. Tout ne se traite pas forcément en famille. Alors, il y a l'école, mais il y a aussi la protection de l'enfance. Il y a aussi les clubs de prévention. Il y a aussi les centres sociaux. Il y a aussi les animateurs. Enfin, voilà, qui participent, en fait, aussi de l'éducation. Parce qu'on est élevé par un collectif d'adultes. Et que c'est ce collectif d'adultes qui nous permet de pouvoir aussi avoir une vision du monde qui n'est pas que celle des parents et qui donc nous permet aussi de pouvoir questionner celle des parents et par là y adhérer ou pas. On y reviendra sûrement, mais de pouvoir savoir si justement ça nous correspond ou pas. Grâce parfois aux autres, même si la référence parentale reste toujours quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez majeur quand même dans la vie.
Et en même temps, heureusement, parce que du coup, si tes parents sont défaillants, si c'était les seuls éducateurs des enfants, ça donnerait des enfants par définition un peu défaillants aussi. Et puis, est-ce qu'on peut parler aussi de cette coéducation au sein des familles? Ça veut dire que souvent, nos enfants sont gardés. Jasmine le disait, bah, quand on a une maman seule à la maison et qui travaille sur des longues périodes, y a une coéducation. Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes? D'éducation qui sont à plusieurs.
Oui, moi je pourrais. Étant donné que mon père était absent, j'ai grandi avec sa famille tout de même. Donc ma grand-mère, pour moi, c'est comme une maman, quoi. Enfin, elle est quand même assez jeune aussi, donc j'estime que c'est comme une deuxième mère. Elle a vraiment pris son rôle à cœur du fait que son fils soit absent et qu'il ne soit pas disponible. Donc du coup, j'estime quand même que, voilà, j'ai des familles monoparentales, mais quand même, j'avais ma grand-mère qui était là, mon grand-père. Mon père a 10 frères et sœurs, donc j'avais beaucoup de tantes. Donc j'avais quand même beaucoup de personnes qui étaient là pour moi, malgré que le fait que mon père ne soit pas là. Après, on ne remplace jamais un père, parce que j'ai quand même toujours cherché à combler ce vide, même si j'avais des figures paternelles, mes oncles, etc. Mais c'est vrai que sans ça, ça aurait été un plus grand vide. Donc je m'estime quand même heureuse d'avoir une famille paternelle.
Ok. Les autres, vous les...
Moi, il y a les oncles. Les oncles, les tantes, hein, on est gardé beaucoup par les oncles et les tantes. Donc tu parlais de coéducation. Généralement, les oncles et tantes, ils ont le même type d'éducation que nos parents, puisque ce sont leurs frères et sœurs, même s'il peut y avoir quelques différences. Donc voilà. Et puis les personnes aussi qui sont à la maison, par exemple, moi, je dis à chaque fois, j'ai des frères, mais j'ai des cousins qui ont été éduqués par mes parents. Donc, c'est-à-dire que moi, je les considérais comme mes frères, alors qu'en réalité, ce n'était pas mes frères. Mais c'est tout comme. Et dans cette ambiance-là, ben, dans ce contexte-là, les petits sont élevés par les grands frères qui deviennent un peu comme des parents aussi, en quelque sorte.
Bouba.
Moi, je rebondis sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, qu'on est élevé par un collectif d'adultes. Et moi, je trouve que ce collectif d'adultes, il est... Jadis, il était plus fédéré. Enfin, il était plus, comment dire, il était plus rassemblé qu'aujourd'hui. Tu vois. Aujourd'hui, tu sais que ton enfant, il va dans tel centre. Après, si tu t'y intéresses, tant mieux. Tu t'y intéresses pas, tant pis. Mais c'est compliqué de pas s'y intéresser, tu vois. Mais et voilà, on a eu l'éducation collective avec des personnes ressources qui sont nos oncles, nos tantes. Moi, souvent, ce que je dis, et même à des amis, je leur dis, heureusement qu'on est issus de familles où, surtout les familles que moi je connais assez bien, les familles africaines, et où franchement, des fois, t'es là, t'es avec ton enfant, comme tu le dis, Benjamin, des fois, on n'est pas forcément disponible, t'as juste à appeler ta sœur ou ton frère, j'arrive dans 5 minutes, je dépose ma fille ou mon fils. Et c'est assez simple, tu vois, cette espèce de communication, même pour déléguer un peu ton éducation à des moments donnés, tu vois.
Puis il y a les parents aussi qui sont souvent présents et du coup même la question d'après c'est est-ce que des fois nos parents dans la façon dont ils nous ont éduqués nous et comment ils nous observent éduquer nos enfants, est-ce que des fois il n'y a pas des interférences entre des modèles éducatifs, toujours. Des schémas éducatifs?
Toujours.
Allez, on se lance.
Toujours. Parce que nos parents ils nous regardent et ils disent mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que disait Benjamin tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, de nos parents, en tout cas, on essaye de prendre le bon et de laisser ce qui nous intéresse pas. Je dirais pas le mauvais parce que peut-être que c'est quelque chose de bon, mais que nous, ça nous parle pas. Donc du coup, on essaye de laisser ce qui nous intéresse pas. Et les parents, ils nous disent, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Des fois, ils veulent nous imposer même leur façon de faire, alors qu'aujourd'hui, on a notre libre arbitre, comme tu le disais tout à l'heure. Quand tu disais que ta mère, elle t'avait éduqué de manière à ce que tu développes ce libre arbitre et du coup, que tu sois en capacité de faire tes choix. Et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai été face à ça avec ma mère quand je suis devenu père. Il y a plein de choses où elle me dit, c'est pas comme ça qu'on fait.
Et puis j'allais te dire, je vais pas leur manquer de respect, j'allais dire ils sont marrants.
Fais gaffe, hein, t'es écouté.
Ils sont là, quand tu les vois avec nos enfants aujourd'hui.
Ils mettent plus aucune limite.
Voilà, il n'y a plus de limite.
Il va y avoir un objet non identifié qui va voler.
Il n'y a pas. Tu viens, tu grondes ton enfant. Non, tu ne le cries pas dessus comme ça. Non, comment ça? Tu lui dis, mais toi, comment tu m'as crié dessus quand j'étais petit? Non, tu vas traumatiser l'enfant là. Il ne faut pas lui vendre comme ça.
Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette hauteur? C'est-à-dire qu'il y a ce que... on va revenir sur nous-mêmes, comment on éduque, et Jasmine, qui est future maman, les projections que tu as pour l'éducation de ton enfant, mais ils ne prennent pas un peu de hauteur. C'est-à-dire qu'avec les années, ils nous observent, ils voient bien, surtout quand il y a des fratries, ce qui a porté ses fruits ou pas, et ils essayent peut-être de nous empêcher des fois aussi de reproduire certaines erreurs. Par exemple, les coups, à une certaine époque, c'était pas légiféré comme aujourd'hui. Quand on revient dans la France d'antan, les coups, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que quand on te dit frappe pas ton enfant, c'est pas parce que justement, ils savent que ça sert à rien? Qu'est-ce que t'en penses, Sonia?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bouba. Chez moi, c'est pareil. La même chose. Moi, je n'ai pas été trop élevée au coup, mais si les objets volants, ça, je connais. La claquette qui vole et tout, ma mère, c'était une spécialiste. Donc, voilà. Mais oui, les.
Ça va bientôt rentrer au JO, à ce qu'il paraît.
Il visait bien, en plus. Hein. Il visait super bien.
Personne d'en dessous de 50 ans hein, pour, dans les catégories.
Ah, ouais, c'est sûr.
Et donc, oui, je remarque cette différence entre la façon dont mes parents ont eu cette sévérité avec moi, avec mes frères, et cette sévérité qu'ils ont plus maintenant. Et puis, il y a aussi, parfois, j'ai l'impression que pour nous protéger, nous, ils étaient plus durs. Et avec les enfants, par exemple, moi, j'ai entendu mon père dire « je t'aime » à ma fille, alors que ça, c'était impossible avec nous, mais impossible. Donc je pense qu'il y a plein de choses comme ça, mais c'est normal.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'intergénérationnel qui se passe. Alors, d'un point de vue neurobiologique, il paraît que le fait de devenir grand-parent, il y a quelque chose dans le cerveau apparemment qui s'allumerait, qui est la même hormone que celle de l'amour filial, mais qui est encore plus forte parce qu'il n'y a pas la notion justement de mettre des limites. Donc c'est, enfin voilà, il paraît que il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Enfin apparemment, enfin je vous invite à les regarder parce que je les connais pas par cœur. Mais donc il y a quelque chose. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup vu parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu un papa extrêmement strict et dur. Moi c'était les douches froides, vous voyez, enfin qui sont interdites. Hein, d'ailleurs aujourd'hui clairement, hein, ça fait partie des violences éducatives reconnues, sans même parler de fessées ou d'objets volants, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai toujours observé que ma fille a réussi à faire beaucoup plus bouger mon père que nous n'avons jamais réussi aucun de nous trois. Quoi. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles elle est capable de lui dire des choses et qu'il entend. Voilà, d'accepter qu'il puisse participer un peu plus aux tâches ménagères, par exemple. Et qui fait que voilà, j'observe ce truc-là. Mais c'est vrai que après la question de l'éducation et de comment finalement les parents interfèrent. Moi, j'ai aussi eu peut-être ce truc-là aussi qui fait que en étant rapidement seule avec ma fille, il y a la tentation des parents de venir un peu faire double parentalité. Et ça, j'ai dû mettre plusieurs fois des limites à ça. J'ai même dû mettre des limites claires en signifiant que non, ils n'étaient pas les parents de ma fille et que donc ils restent à leur place de grands-parents. Et qu'être un grand-parent, c'est pas être un parent. Voilà, et qu'on n'est pas au même endroit. Mais ça crée des... J'ai envie de dire, j'ai même envie de dire, ça nous oblige à redevenir adultes. Une deuxième fois. Parce que c'est de nouveau devoir fermer le clapet de ses parents, mais non plus sur un truc très adolescent de « je fais ce que je veux d'abord de ma vie ». Vous voyez, c'est plutôt sur un mode de « là, maintenant, tu vas rester à ta place et c'est plus la tienne, c'est plus à toi d'être responsable. C'est mon rôle et tu auras le droit de juger mon éducation, mais une fois que c'est fini. En attendant, tu fermes ta bouche.
Quel courage, moi, même aujourd'hui, je n'oserais pas.
C'est compliqué.
Je t'apprendrai.
Je vais me prendre une chaussure. Je ne sais pas, hein, mais j'ai très peur. Même aujourd'hui, j'ai peur de dire ça. J'aurais peur.
Non, mais c'est compliqué. Moi, ma mère, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Bon, Aminata, va falloir grandir. » Waouh. C'est bon, maintenant, va falloir grandir. Mm-hmm. D'accord. Maman de 3 enfants, dont l'aîné a 15 ans. Donc, on reste toujours leur bébé, en fait. Donc du coup, c'est compliqué des fois dans l'éducation ou dans les décisions qu'on va prendre d'obtenir le crédit, comme si on devait encore se faire valider. Est-ce que il y a aussi les amis ? On n'a pas parlé des amis, mais les amis dans l'éducation de nos enfants, ils jouent un rôle ou pas ?
Pour moi, oui, si je peux me permettre, parce que j'ai une amie à ma mère qui est pour moi très, très chère à mon cœur et qui est une tante carrément, je ne fais même plus la distinction, et qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle était elle aussi maman célibataire, et elle m'a beaucoup aidée à comprendre les décisions de ma mère, à comprendre pourquoi ma mère elle agissait comme ça. Donc pour moi, à la limite, elle m'a aidée à bien m'entendre avec ma mère, surtout pendant l'adolescence. Et je trouve que des fois, cette entraide-là, ça, et pour moi et pour les enfants de ma tante, du coup, ça nous a permis de comprendre que c'était pas si facile que ça pour la maman de nous punir ou de nous interdire des choses, qu'ils faisaient pas ça par plaisir et que c'était au final pour nous. Et j'ai beaucoup aimé cette intervention là dans ma vie, on va dire.
D'accord.
Non, moi je confirme ça parce que pour le coup, pour l'avoir vécu de l'autre côté, c'est vrai que voilà, j'ai un petit collectif de copines, enfin d'amis, enfin voilà, qui sont très proches, qui sont devenues des marraines finalement pour ma fille, enfin des tantes, enfin de voilà, et qui continuent d'exister énormément dans sa vie et dans la nôtre, et qu'on voilà, et qui sont. Alors il se trouve que la vie a fait qu'on est. Moi, j'étais la prums, mais derrière, elles se sont retrouvées aussi mère célibataire. Mais plus tard, avec des enfants plus petits. Avec en plus la problématique aussi de l'interculturel au sein de chacune de nos couples, pour des raisons différentes et à des endroits différents. Mais donc, ça a fait aussi que voilà, les amis, le collectif d'amis, enfin, moi, je trouve est parfois extrêmement important. Et c'est aussi ça, faire famille. C'est finalement choisir qui on va intégrer dans des éléments de réflexion, d'intime et d'éducation aussi. Et qu'on n'a pas forcément besoin de partager du sang pour pouvoir se sentir lié. Voilà, Anne, tu parlais aussi de ton beau-père, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir cette relation aussi du parent qui n'est pas biologiquement parent, mais qui a un rôle de parent aussi.
Ouais, Anne.
Ouais,
Ouais.
désolé. Non, si t'as bien fait.
Il n'est pas convaincu.
Non, ouais, oui. Ça dépend de la relation que tu peux avoir avec. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure où le beau-père est totalement intégré dans la famille, où bah, tu le considères comme ton père et tu fais pas cette distinction entre père biologique et t'as l'autre cas de figure où c'est comme si, bah, c'est une pièce rapportée et du coup tu lui donnes pas forcément de crédit. Moi j'ai eu les deux en même temps. Au départ c'était mon père parce que c'est lui qui m'a élevé, et au fil du temps, au fil des comportements, et bah, je lui donnais plus forcément le crédit que je lui donnais au départ. Donc c'est pour ça que je disais ouais.
Est-ce que vous écoutiez vos parents?
Est-ce qu'il y avait le choix?
Oui, c'est ça la vraie question.
Est-ce que vous aviez le choix de ne pas écouter vos parents? Est-ce que vous écoutiez vos parents quand vous étiez
Bah, à l'époque, les parents, ils avaient un plus grand pouvoir. Parce que moi, je me souviens d'une époque où les parents, que ce soit de dehors ou à l'intérieur, lorsqu'un parent venait et parlait, il avait sa place, il avait son rôle. Tu vois, c'était important ce que disait un parent. Tu vois, et ceux qui n'écoutaient pas forcément leurs parents, ils n'étaient pas si nombreux que ça en vérité. Tu vois, parce qu'on était aussi dans cette grande époque, hein, comme je disais, l'éducation collective, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de parents dehors.
C'est-à-dire, mais est-ce que les gens aujourd'hui ont. Est-ce que les parents, les 10 parents, ont vraiment une posture de parents aussi?
C'est ça le débat aujourd'hui. Hein.
Mais c'est là où la question n'est pas tellement sur est-ce que les parents sont à écouter, mais plutôt la place des adultes et le rapport de l'adulte. Et c'est vrai que l'adulte avait avant une espèce d'aura un peu magnifique, même parfois un peu trop d'ailleurs, ouais, aussi, parce qu'on ne questionnait pas du tout, on ne remettait pas en cause. Et puis bah, aujourd'hui, ça a bougé, ça a avancé, mais c'est vrai qu'il y a le collectif des adultes qui a du mal à se mettre en place, en fait. Enfin, il y a quelque chose autour de ça. Maintenant, je pense que ça dépend de l'âge qu'on avait aussi, parce que moi, je peux vous dire qu'entre 8, 10 et 15, je n'écoute pas mes parents de la même manière.
Tout à fait.
Voilà. Enfin, donc à 8-10 ans, enfin 8 ans, j'écoutais forcément mes parents, et puis j'avais ce besoin de valider aussi, parce que quand on est enfant, on a aussi envie d'être aimé, et écouter et obéir, c'est aussi une façon de se faire aimer. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, parce que c'est pour ça que parfois on peut obéir à des choses graves aussi. Et puis après, bah, y a l'entrée dans l'adolescence où on commence, c'est pour ça que le 10-12, où on commence à se rebeller un peu, on commence à avoir besoin éventuellement de s'émanciper de ses parents, donc de faire des choses qui sont un peu interdites, de frôler avec l'interdit la transgression. Et puis avec les limites que ça a, justement, bah, en fonction de qu'est-ce que ça fait de se faire prendre ou pas, aussi. Et puis après, il y a l'adolescence, où là, pour le coup, on peut y aller consciemment dans la remise en cause et dans la désobéissance. Et puis parfois, il y a des formes aussi, aujourd'hui, on peut l'observer, des formes de désobéissance civile qui sont importantes à garder. Parfois, de rester un peu un ado chiant, ça peut être pas mal aussi sur des trucs. C'est-à-dire qui quelque part, n'obéit pas bêtement, en fait. Enfin, en tout cas, c'est tout le rapport. Enfin, l'obéissance, c'est une bonne chose jusqu'à où? Jusqu'à ce que... Voilà, c'est toute la question, en fait.
Et ouais, en même temps, aujourd'hui, excuse-moi, Anne, on a des enfants de 6, 7, 8 ans qui n'écoutent pas du tout leurs parents. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai vraiment pas arrêté dans le temps, et je la pose de façon large pour déjà avoir une représentation ici sur le plateau de est-ce que petit, vous aviez l'impression d'écouter vos parents?
Bah, moi, dès que j'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à me poser des vraies questions, et bah, c'est là où j'ai commencé à plus forcément écouter mes parents.
Ouais, ce que disait Benjamin, voilà, en fait.
C'est pour ça que je voulais... Parce que dès lors que j'ai commencé à mettre du sens, parce que... À l'époque, on était beaucoup dans « c'est comme ça et pas autrement ». Et du coup, moi, je suis arrivé et j'ai dit « mais comment ça, c'est pas autrement ?» sans être, j'ai toujours été respectueux, mais je me suis toujours questionné en essayant de comprendre « mais pourquoi c'est comme ça ?» Et c'est là, en fait, où il a commencé à avoir des conflits, du coup.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, et ça rejoint ce qui a été dit avant, c'est que si on commence à se poser des questions... et qu'on questionne. Et c'est pour ça que là, je te regarde, Jasmine, parce que Jasmine a dit « mais est-ce que j'avais le choix ?» C'est-à-dire, quand toi, tu n'étais pas d'accord et que tu ne voulais pas écouter, finalement, tu écoutais quand même?
Bah, j'écoutais quand même parce que j'avais archi peur de ma mère, et j'ai valorisé très tôt le fait qu'elle s'est sacrifiée pour moi, etc. Donc, je ne voulais vraiment pas lui manquer de respect, mais je n'étais vraiment pas d'accord avec plein de choses, parce que je me nourrissais de tellement de trucs. Et ma mère, elle m'a toujours dit, ça a commencé très tôt, elle m'a dit, ok, bah montre-moi que ça marche comme ça. Prouve-moi que tu vas y arriver de cette manière-là, que ce soit pour les devoirs, sur mes horaires de sortie, etc. Elle me disait, ok, tu veux qu'on fasse comme ça, et eh ben t'as pas intérêt à déroger à la règle. Alors, tu veux sortir jusqu'à 22h ? Ok, bah 23h, à 21h59, t'es à la maison. Elle était vraiment. Enfin, elle me laissait. C'est pour ça que je dis qu'elle était stricte, mais elle me laissait quand même le choix. Genre, je lui disais, ouais, je préfère sortir de telle heure à telle heure. Non, la vaisselle, je préfère pas la faire le matin, je préfère la faire le soir. Elle me disait, ok, mais il fallait que je sois carré, quoi. Après, je restais une ado, une enfant. Non, des fois, la salle n'était pas faite. Non, des fois, à 59, j'étais pas là. Des fois, je rentrais, je voyais des mots sur ma porte en mode il n'y a qu'un habitant dans cette maison. Il me disait, ouais, je suis viré chez moi. Il me disait, ah ouais, et tout. Mais en soi, j'avais le choix quand même. Donc, je devais prouver que ce que je disais, ce que j'avançais, bah, ça valait la peine.
Ouais, elle a plutôt utilisé la technique de tu veux ça, bah vas-y, fais-le, voilà, mais te loupe pas, par contre.
Exactement, je devais pas me louper.
Avant, il y avait quand même une dictature des adultes. Il y avait une dictature comme avant, parce qu'avant il y avait un ordre établi où les adultes, genre la parole de l'enfant, elle n'était pas respectée.
La parole de l'adulte était sacrée.
Elle était sacrée, hein. Ouais. Elle n'avait pas autant de valeur que ça. Tu parles, c'est comme si on t'entend pas. T'as parlé, on a entendu.
Et encore quand t'avais le droit de parler, moi j'ai connu les repas où on n'a pas le droit de parler aussi, hein.
Bien sûr.
Ouais, les tais-toi.
Hein ouais.
Tu explique-moi. Tais-toi, mais tu veux que moi c'était que des trucs comme ça.
Ouais. Tu vois même lorsque t'étais à l'école, les maîtres et les maîtresses, les profs, ils avaient un pouvoir. C'est-à-dire que lorsque en plus nous nos parents respectaient beaucoup les professeurs, genre lorsque le professeur disait quelque chose, il a raison. Il a raison et ta parole vraiment elle pesait pas, elle comptait pas jadis, tu vois.
Du coup, Sonia, ma prochaine question est pour toi, parce que j'ai promis de ne pas trop te questionner, donc je vais te questionner. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu n'as pas écouté tes parents ? En tout cas, d'une fois où tu n'as pas écouté, ça t'a coûté cher.
Moi j'ai toujours écouté mes parents. j'ai, à un moment donné, j'ai désobéi, mais j'étais grande. J'étais vraiment grande, et puis ils ne l'ont jamais su. Mais à un moment donné, j'ai commencé à leur mentir, parce que tout à l'heure, Barbarie, je parlais du moment où il a commencé à se poser des questions et qu'il a vu qu'il y avait une incohérence à un moment donné, que il avait du mal à obéir parce que c'était pas cohérent, la règle n'était pas cohérente. Ça, moi, je m'en suis aperçue beaucoup plus tard, quand j'étais plus chez moi, et peut-être même quand j'ai eu mes enfants, et que cette question a commencé à se poser, cette question de mettre une règle, etc. Et je me disais, non, mais en fait, ça rimait à rien, ce que mes parents me faisaient. Je me souviens que parfois, il n'y avait pas de règle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de changer avec mes enfants. Mes enfants, ils savent, ça, t'as le droit, ça, t'as le droit, ça, tu n'as pas le droit. Alors que moi, je ne savais pas. Des fois, il y avait des trucs qui passaient, et le même truc, un mois après, ça passait plus. Et on me disait, mais pourquoi t'as fait ça ? Et en fait, ça dépendait certainement de l'humeur, du contexte, parfois de la honte aussi, du qu'en dira-t-on ? Quelque chose que j'avais fait seule devant mes parents, il n'y avait pas de problème. Et puis dès que je l'ai fait dehors, mais pourquoi t'as fait ça alors que c'était la même chose ? Du coup, non, moi, j'ai pas l'impression d'avoir désobéi à mes parents. En revanche, mes frères l'ont fait. Mon frère, il leur est arrivé de faire des grosses, grosses bêtises. Et je me souviens d'une fois où mon père, il les a frappés. Et c'était la grosse bagarre. Je me rappelle, j'avais peur, j'ai pleuré et tout. Avec ma mère, on avait peur. Mais je sais pas, il les avait jamais tapés avant. Hein. Donc c'est ça qui était aussi hyper impressionnant. Mais moi, pour moi, en ce qui me concerne, ben non, j'ai pas de souvenir d'avoir désobéi et d'avoir été sanctionnée pour ça.
Et les autres ?
Moi, beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup désobéi. Je vais être très claire.
Je vais assumer.
Oui, c'est marrant, ça vous étonne pas.
Non, pas du tout.
Moi, j'ai pas mal désobéi à partir de l'adolescence, beaucoup, parce que j'avais vraiment un besoin de liberté assez énorme et puis d'existence tout court. Hein, en plus, hein, comme j'étais la dernière. Et j'étais pas la dernière choyée, moi. J'étais la dernière qui suivait, quoi. Enfin, qui devait suivre le mouvement. Donc, j'ai beaucoup fugué, par exemple, parce que comme j'avais pas le droit de sortir, justement, j'aurais bien aimé, moi, voir ta mère. Donc, y a un moment où il fallait que je vive un peu, donc j'étais sortie. Et puis, je me souviens, par exemple, de jouer une petite anecdote, parce que c'est encore dans la famille un truc qui les a beaucoup marqués, donc qui est raconté régulièrement au repas de famille. C'est que, y a un moment où j'avais presque 18 ans, j'étais 2 mois avant mes 18 ans, c'est important quand même, hein, pour situer. Et je suis partie avec un chéri à Amsterdam. En disant à mes parents que j'allais chez une copine. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus jouable, même si vous allez voir que quand même je me suis fait griller dès le départ, parce qu'il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tout ça, donc il suffisait de donner un numéro de fixe et en disant qu'on n'était jamais là pour que ça marche à peu près. Parce que quand même, jusqu'à 18 ans, moins de 2 mois, moi, mes parents demandaient systématiquement le numéro où j'allais et appelaient chez les gens.
Ouais, moi, c'était pareil.
Vous voyez ? Ce truc qui, aujourd'hui, moi, je l'ai expliqué à ma fille, elle m'a dit « Oh, l'horreur !» Voilà, ben, faites pas ça à vos gosses, quoi. Enfin, voilà, le truc vraiment difficile. Et donc, j'avais donné le tout. Et puis, bon, ils n'avaient pas réussi à joindre les parents, mais j'avais trouvé une excuse, plus ou moins. Et en fait, pendant tout le week-end, c'est là où vous allez voir quand même l'impact de l'éducation, j'ai culpabilisé ma race, vraiment, pendant 2 jours. Tellement qu'en rentrant sur le trajet, à peine passé la frontière, j'appelle mes parents d'une cabine téléphonique, l'époque, autre temps, et je leur avoue tout, je leur avoue tout. Et ben j'ai été punie comme jamais, quoi. Alors que pour moi, j'avais juste le sentiment de leur avoir tout dit, d'avoir été genre, enfin, je m'étais auto-punie, quoi, en fait. Enfin, j'avais pas profité de mon week-end, enfin rien, quoi. Enfin voilà. Et ben j'ai eu 2 ans de punition, quoi.
Ah oui, 2 ans.
Ah ouais. Ah non, non, ça déconnait pas. Hein. Enfin, on était...
18 ans, ça comptait pas.
Ah non. Ah, tant que j'étais sous le toit de mes parents, c'est pour ça que je suis partie très vite d'ailleurs aussi, mais tant que j'étais sous le toit, c'était leur règle, et même, je vais même dire, la loi de mon père, point, en fait.
J'ai envie de rebondir sur ça. Qui, passé les 18 ans, n'était pas majeur ? Bon, chez soi.
Moi, moi j'étais pas majeur.
Mais j'ai 44 ans, je suis toujours pas majeur.
mais tu sais que moi, il m'est encore arrivé d'aller chez, il y a pas très longtemps, chez mes parents et de me faire engueuler comme si j'avais 4 ans et demi encore. Voilà.
Mais moi, c'est la spécialité de ma mère, ça. C'est que. C'est... En fait, ce qui est drôle, mais c'est un sourire narquois, c'est que. Certes, on reste leur enfant. Mais aujourd'hui, ils nous parlent, comme tu le disais, comme si on était des adolescents, alors qu'on a un vécu qui n'est pas forcément comme le leur, mais qui s'en rapproche quand même, vu l'âge qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des enfants, on est en couple ou pas en couple, mais en tout cas, on a vécu l'amour, peut-être des déceptions. On a vécu plein de choses, donc du coup, c'est comme dans le règne animal. Quand tu deviens adulte, tout le monde est adulte en réalité. Mais j'ai l'impression qu'avec nos parents, c'est pas comme ça.
Mais moi, ce que je crois, hein, c'est que nos parents, en fait, ils sont issus de temps durs. Et en fait, lorsqu'ils nous ont élevés, comment dire, c'était pas les temps de guerre. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de nos parents, c'était l'époque de la guerre ou c'était l'époque où les temps étaient très durs. Tu sais, même pour manger, des fois, ça se trouve. Enfin, même pas ça se trouve. Il y a des parents qui mangeaient une fois par jour et qui mangeaient pas régulièrement. Les temps étaient durs, tu vois, même, ne serait-ce que ce soit en Afrique ou en France. Hein. Et du coup, lorsqu'ils nous ont élevés, ils se sont dit, on est en train d'élever des enfants gâtés. Tu vois, ils sont gâtés, on est en train de les gâter. Mais le peu, ce qui pour nous était était quelque chose de normal, toi, un acquis, eux, pour eux, c'était beaucoup. Pour eux, déjà, à l'époque, tu vois, ils se disent, mais attends, on leur a tout donné. Et c'est pour ça que je pense que même aujourd'hui, lorsqu'ils nous parlent, ils se disent, ils se voient pas comme... ils se disent pas, ouais, ils sont comme nous. Tu vois,
on n'est pas leur égal.
Voilà, on n'est pas leur égal. Voilà. Ils disent, nous, on a grandi dans des temps très durs, dans les années 60, 50. Vous avez grandi dans les années 80, 90. Vous avez eu la belle vie.
Moi, je pense que ce que je pense, c'est que nos parents, ils nous font pas confiance. En tout cas, moi, je parle pour moi. Mm-hmm. J'ai cette impression que, en fait, on devra toujours leur prouver des choses. Moi, souvent, il y a une phrase que je dis à ma mère, c'est que, parce que bon. Quand elle arrive à la maison, c'est une furie. Elle s'est calmée ces dernières années, mais c'est vrai que pendant un moment, c'était une furie à chaque fois qu'elle arrivait et qu'elle remettait beaucoup de choses en question. Bon, après, elle était dans une bienveillance, mais elle remettait beaucoup de choses en question. Et moi, souvent, je lui dis, mais moi, je comprends pas pourquoi tu es aussi dur avec moi, surtout à l'âge que j'ai, alors que je t'ai jamais ramené la police. Surtout dans le contexte dans lequel je vivais à l'époque, ça aurait été très simple. Je t'ai jamais ramené de problème. Alors que je suis un garçon et que j'ai vécu dans un contexte très particulier, difficile. Et à chaque fois, je lui dis ça, je lui dis, tu vois, là, t'es en train de me casser la tête sur des choses qui, à mon sens, sont futiles. Mais si on regarde toute ma vie, je t'ai jamais ramené de problème. Donc en réalité, c'est pas aujourd'hui que je vais t'en ramener. Maintenant que j'ai des responsabilités, que je suis adulte. En tout cas, ce sera pas le genre de problème auquel tu penses. Donc, je vous parle de ça pour vous dire que j'ai l'impression qu'ils nous feront jamais confiance.
Qui a ce ressenti ?
Moi.
Vas-y.
Moi je te rejoins, Barberiche, mais surtout d'un point de vue émotionnel, du fait que ma mère, elle soit orpheline et qu'elle a dû se débrouiller très tôt, très jeune, etc. tout ce que je peux ressentir, ça sera jamais ce qu'elle a ressenti. Ça veut dire que moi, j'étais un enfant quand même assez sensible. Des fois, voilà, rien quoi, des trucs de fille, hein. Je m'embrouillais avec mes copines, j'avais des mauvaises notes, etc. Je pleurais, mais j'avais aucun motif pour pleurer. Pour ma mère, tant qu'elle était vivante et que j'étais vivante, il n'y avait aucune raison de pleurer. Ça veut dire que tous mes pleurs étaient injustifiés. Et émotionnellement, ma mère et moi, on était aux antipodes, quoi. Je ne me suis jamais sentie écoutée, je ne me suis jamais sentie comprise. Enfin, c'était surtout ça, l'éloignement un éloignement qui s'est creusé quand j'étais adolescente, où quoi que je faisais, c'était moins grave que ce qu'elle a vécu. C'était toujours moins grave, c'était toujours futile. Je lui dis « Ah, maman, regarde, elle ne me parle plus et tout, mais il n'y a pas de raison de pleurer. Ah, maman, regarde, j'ai tout donné dans ce devoir, je suis dégoûtée de ma note, mais il n'y a pas de raison de pleurer. » Il n'y avait aucune raison de pleurer, vraiment rien. Je lui ai même dit à un moment donné, je lui dis « Bah, s'il n'y a aucune raison, autant que j'abandonne ma vie, quoi. » Et c'est là où ça lui a fait un tilt. Ouais, c'est dit, je suis peut-être un peu trop dur, j'ai peut-être un petit peu abusé, parce que moi, j'avais jamais vu ma mère ressentir aucune émotion, quoi. Alors, elle a jamais pleuré, elle a jamais rien fait. Et c'est vrai que moi, le fait que je pleure tout le temps, bah, je pense que ça lui faisait mal et c'était sa manière à elle de gérer ça, quoi. Jusqu'au jour où je lui dis, bah, c'est bon, en vrai, c'est bon, j'en ai marre de vivre, bah, tu me comprends pas, j'en ai marre de vivre, c'est bon, quoi. Et là, et c'est là où elle a commencé à un peu plus s'ouvrir à moi et me raconter que. Elle a du mal à me voir dans cette position. Même un petit truc, ça lui fait super mal. Du coup, elle préfère se refermer plutôt que s'ouvrir. Parce que si elle me dit, si je te raconte tout, on va pleurer jusqu'à 2030 même. Donc, je me sentais vraiment loin de ma mère émotionnellement. Et ça, c'est... Enfin, de femme à femme ou de fille à femme, de mère à fille, eh ben, je me suis dit, en fait, quoi que je fasse, je vais jamais ressentir sa douleur. Donc, en fait, au final, à quoi bon, quoi, on se comprend pas, quoi.
Est-ce que quelqu'un souhaite reprendre la parole ?
Moi, je trouve que c'est ce que tu viens de dire, là, tu te sens loin de ta mère émotionnellement. Je crois que c'est ça, en fait. C'est en lien avec ce que je disais, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans des temps durs où ils ont dû s'endurcir. Et du coup, le fait de nous voir des fois faiblir, eux, ils se disent non, c'est pas possible. Vous vivez dans une société où t'as des vêtements, t'as des pantalons, comme on dit chez nous, là, tu vois. T'as des chaussures, t'as tout, et pourquoi tu te plains? Pourquoi tu vas pleurer? Donc en fait, je pense que t'as vu, à un moment donné, c'est un manque d'empathie, tu vois, qu'ils ont eu parce qu'ils se sont dit, nous on a grandi dans le dur, il faut qu'on arrive à élever des enfants qui soient aussi solides que nous. Et après, pour rebondir sur ce que disait Barberiche tout à l'heure, moi bizarrement, j'ai ressenti ça avant. Tu sais, le fait qu'on nous fasse pas confiance, le fait que tu seras jamais à la hauteur. Et quand j'ai commencé à me mettre avec une femme, me marier, tout ça, bon, à l'époque, hein, je ne le suis plus, voilà, à cette époque-là, j'ai vu du respect dans le regard de mon père. Tu vois, j'ai dit, vous savez, commence à me respecter, là, tu vois. Et même de par ce que nous faisons aujourd'hui, là, le fait d'avoir des enfants, de les élever, ou même de par nos activités, je vois mon père, il me regarde avec du respect, là, je le regarde, je dis, Par exemple, récemment, là, j'ai été dans... C'est à BFM là-bas, là, tu vois.
Mère.
Tu vois, et mon père, ma mère, elle m'a dit, ouais, je l'appelle, elle me dit, oui, t'as très bien parlé. Ton père, il a dit, t'as parlé avec du respect. Et rien que quand il a dit ça, j'ai entendu ça, il l'a pas dit, hein, mais j'ai entendu ma mère dire ça. Et je me suis senti soulagé, j'étais comme ça dans mon canapé, j'étais comme ça. C'était comme si j'étais un chamallow.
Ça valait le coup d'y aller, quoi, sur ce coup-là.
Ouais, j'ai dit, juste parce qu'il a dit ça, ouais, quand il s'adressait aux mères, tout ça, il était respectueux. Rien que quand il a dit ça, j'étais comme un chamallow, frère. J'étais là, j'ai dit, ah ouais, c'est bon. Juste pour ça, c'est bon.
Ouais.
Et c'est vrai que pour rebondir un peu, j'aurais envie de dire que la confiance de nos parents, elle se gagne un peu aussi, ouais. En fait. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a quelque chose de... c'est un peu une lutte. Moi, je l'ai un peu vécu comme ça aussi. Alors, je dirais pas qu'aujourd'hui, ils ont totale confiance parce qu'ils ont des angoisses qui leur appartiennent finalement et qui, quelque part, m'appartiennent pas, mais que moi, j'incarne par leur représentation, mais c'est pas pour autant que je pense que la confiance elle est arrivée justement parce qu'à un moment moi je sais que je leur ai tenu tête, enfin ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris, enfin voilà, mais c'est par là finalement qu'il y a quelque chose de la confiance qui s'est mis en place, aussi étrange que ça puisse paraître, parce qu'il y avait quelque chose où je n'autorisais plus à ce qu'ils n'aient pas confiance en fait, donc je ne laissais plus de prise à ça. Et où il me faisait confiance, enfin en tout cas, ou en tout cas il ne me signifiait pas la méfiance, et dans ce cas-là on pouvait continuer d'avoir des relations, sinon moi je disais ce sera sans vous, quoi. Et je le ferai s'il faut, avec toute la violence que ça peut être pour moi, mais, et donc il y a quelque chose qui s'est joué là-dedans, et après moi c'est vrai qu'aujourd'hui je le vois aussi de l'autre côté,
parce que j'ai une fille qui a bientôt 22 ans, donc qui, quelque part, m'interroge là-dessus aussi. Et je vois que le moindre conseil peut être perçu comme une non-confiance. Mmh. Et donc, je me replace aussi un peu de quand j'étais plus jeune là-dessus. Et c'est vrai que... pour le coup, c'est vrai que ça m'arrive d'ailleurs de lui dire qu'elle a de la chance, parce que quand même, je l'écoute. Mmh. Mais c'est vrai que je comprends aussi cette... Enfin, je relis mes parents un peu différemment aussi, et c'est normal, ça fait partie du jeu, parce que il y a aussi cette dimension de oui, on sera toujours le bébé de nos parents, mais nos enfants sont toujours nos bébés aussi. Mmh. On les voit pas forcément grandir comme ils sont, et c'est pas simple pour eux non plus. Et donc il y a cette lutte qui se rejoue aussi de leur côté à eux, et qui est nécessaire et qu'il faut accepter en tant que parents. Et c'est peut-être là que ça se joue, c'est comment les parents acceptent ou pas d'être mis en cause, parce que je crois que là il y a aussi un enjeu en fait.
Ouais. Sonia, est-ce que toi, tu as l'impression justement d'avoir la confiance de tes parents sur ton éducation, sur tes choix, sur ceux de Maxime? Ou est-ce que tu as l'impression, au contraire, que faut encore prouver?
Moi, j'ai l'impression que j'ai leur confiance maintenant, mais que c'est pas venu tout de suite. Qu'il a fallu quelques années, et que de leur part, de voir la façon dont j'éduquais mes enfants, ça les y a aidés, en fait. Mais... Oui, il y a plein de choses de l'éducation de mes parents que je trouve bien. Par exemple, tout à l'heure, Jasmine, tu parlais de pleurs. Ben, moi, je trouve ça bien, et j'aimerais bien que mes enfants soient durs, soient un peu durs quand même. Moi, je le suis parce que ce que tu racontes, moi, c'était un peu comme ça. Mais je trouve ça bien. Honnêtement, moi, j'aime pas quand mes enfants pleurent pour rien. Tu vois, ils sont grands, ils sont ados maintenant. Mais je suis souvent en train de leur dire... Bon, ils pleurent pas beaucoup, mais quand ils se plaignent, quand ils sont dans la complainte, je suis beaucoup en train de leur dire... Enfin, de relativiser. Qu'est-ce qui va pas? C'est rien, c'est juste l'école. Arrête. Arrête, t'es là, t'es encore en vie. Donc, ce que te disait ta mère, moi, c'est des choses que je peux être amenée à dire à mes enfants, par exemple. Et je trouve ça bien aussi.
Du coup, c'est une très bonne transition. Qu'est-ce que vous retenez de l'éducation que vous avez reçue et que vous transmettez? On parlera après de tout ce qu'on ne veut pas transmettre, mais et que vous prenez plaisir ou qui vous tient à cœur de transmettre dans l'éducation que vous donnez à vos enfants aujourd'hui.
Avant de répondre vite fait, je rebondis sur ce que disait Benjamin, leur tenir tête. Mais c'est vrai que moi, lors de ma première réunion, mon père n'était pas d'accord. Du coup, j'ai dû lui tenir tête, mais respectueusement, tu vois. C'est-à-dire, vous connaissez les oncles africains, là, tout ça. Là. Il y en a même un qui, le jour où je me suis marié, il m'a tenu par le col, il m'a dit « C'est pas comme ça, chez nous !» J'étais comme ça. Mais il a vu que j'ai pas réagi, j'étais comme ça, je l'ai regardé, puis c'est tout, tu vois. Parce que, on peut pas réagir, c'est comme si c'était mon
mais
père.
Mais je vais le faire.
Mais j'ai dit « Je vais le faire, ça va se passer comme ça, tu vois. » Pour des raisons que vous deux, vous savez, ils étaient pas d'accord. Ils disaient « Non !» Tu vois. Mais ils m'ont quand même suivi. Donc il y a quand même tout un processus qui s'est mis en place, mais il n'était pas d'accord. Mais il m'a respecté parce que il a vu que j'ai tenu la route, et même si bon.
Et que t'étais sûr de ton choix en fait.
Ah, c'est ça. Même si il savait que ça allait se terminer tôt ou tard, mais bon. Parce qu'ils le savaient, tu vois, ils ont dit, toi là, non, ça n'est pas pour toi tout ça.
Mais c'est ça. Et des fois, on a l'impression qu'ils ne nous donnent pas leur confiance, alors qu'en fait, c'est ce que tu disais en fait. Il y a des relectures. Il y a des relectures à différentes étapes. Et quand on est sur l'instant T, ce qui peut apparaître comme un manque de confiance ne l'est pas. C'est juste que des fois, ils ont besoin aussi qu'on puisse asseoir une certaine autorité et être en capacité de faire ce que tu disais tout à l'heure. C'était compliqué. Moi, de regarder ma mère et de lui dire non, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de non. C'est oui ou pas de réponse. Pas de réponse étant le non. Tu vois, mais du coup, de peut-être qu'ils attendaient aussi de nous qu'on puisse être bien dans nos baskets et dire non, je veux pas. Et le fait de tout le temps dire oui, est-ce que c'est parce qu'il fait naître ce manque de confiance en se disant est-ce que celui-là là ou celle-là elle est capable de dire non dehors quand on va lui proposer quelque chose, puisque en fait à la maison c'est oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des schémas éducatifs qui faisaient que à l'époque c'était compliqué de tenir tête. Mais du coup, est-ce que ça ne fait pas naître une crainte de quand mon enfant va être dehors, parce qu'on n'a pas parlé de l'éducation de la rue, est-ce que lui, là, il va être capable de dire non?
Non, moi, je dis plutôt que c'était la dictature. Avant, on était dans une dictature. Pas de démocratie.
Ouais, mais tu ne penses pas que tes parents, ils pouvaient se poser la question de si tu pouvais résister à ce qui se passait dehors?
Non. Moi, pour moi, moi vraiment, j'avais cette impression. C'était juste une dictature. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas cette réflexion qu'il peut avoir aujourd'hui autour de la parentalité. Cette parentalité bienveillante, l'échange, la discussion, on n'était pas là-dedans. On était on l'a abordé tout à l'heure sur la place de l'adulte. Tout à l'heure, Benjamin, tu disais que l'adulte, c'était sacré. L'adulte, on pouvait... En fait, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions d'inceste, tous ces problèmes
intrafamiliaux.
En fait, on ne pouvait pas en discuter parce que c'était remettre en question la place de l'adulte ou la morale de l'adulte.
Oui, c'est clair.
Donc c'est pour ça que moi je parle de dictature. C'est-à-dire qu'à l'époque, des fois on se faisait engueuler, on nous demandait de nous expliquer, mais quand on s'expliquait, on nous demandait de nous taire. Parce que l'explication n'allait pas dans leur sens. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'à l'époque, on était dans une dictature. C'est-à-dire que les parents étaient des dictateurs. Avec leur vision, ils voulaient nous imposer leur vision sans forcément avoir d'échange avec nous pour voir et comprendre nos réactions. Parce que tout à l'heure, tu donnais un exemple qui était bon. Toi, tu t'es formé d'une manière. C'est-à-dire que toi, tu n'étais pas ta mère. Ta mère n'était pas forcément dans l'empathie. Toi, tu l'étais. Ben, pour moi, un parent, il doit comprendre son enfant. Mais à l'époque, je ne dis pas que tous les parents. Mais il y a des parents, ils ne voulaient rien savoir. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est juste imposer leurs règles, transmettre les valeurs qu'on leur avait transmises, et c'était tout.
Il y a des courroies de transmission, finalement, de manière assez passive, finalement. Enfin, parce que, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose aussi... Enfin, après, moi, je sais que je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que j'avais gardé, finalement, de l'éducation de mes parents que j'avais donné à ma fille. Et c'est étrange, parce que c'est pour ça que j'en parle là, c'est que finalement, le truc qui m'a le plus... que j'ai le plus transmis, c'est la capacité à dire non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu de problème à savoir dire non. L'avantage de ces éducations, voilà, parce qu'il faut quand même en parler, il y a aussi des avantages, c'est qu'on est assez à l'aise pour dire non. En tout cas, c'est un non très incarné ou qui voilà, c'est pas un non flottant, quoi, comme on dit, voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai jamais eu trop de soucis là-dessus, et c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, donc que ma fille est grande, que ça soit d'ailleurs, parce que j'ai la chance d'avoir, enfin, d'avoir une grand-mère qui est encore en vie, donc plus d'un siècle, mais qui est encore en vie, et qui me disait, et ça je sais que voilà, mes parents ont pu me le dire à leur manière aussi, bah finalement bon, on n'y croyait pas du tout, hein, que t'allais t'en sortir en tant que parent, hein, toute seule, tout ça, enfin non mais en gros quoi, enfin voilà, genre vraiment, c'est vrai que je sais que j'ai inquiété à peu près tout le monde, j'étais un peu l'espèce de truc étrange comme ça d'OVNI dans la famille, et que finalement bah elle me disait, bah finalement t'en es pas si mal sorti quoi quand même, en fait, enfin finalement t'as presque, alors ils me diront pas que j'ai reproduit leur éducation parce qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a un peu de différence, mais de leur point de vue, finalement, ça va, c'est pas trop loin, quoi. Vous voyez ? Alors que moi, je sais qu'il y a plein de différences, mais pour eux, de ce qu'ils en ressortent, ils se disent, bon, ben voilà, ça a été respectueux, enfin voilà. Mais c'est assez marrant de voir que c'est 20 ans après qu'ils peuvent le dire, et que, parce qu'eux s'y retrouvent, et ils voient des choses qui leur paraissent correspondre à ce qu'eux étaient, alors que dans le réel, il y a beaucoup de choses qui sont très loin d'eux, mais qu'ils ont mis de côté.
C'est le résultat final, en fait, qu'ils voient.
Voilà.
Sonia, qu'est-ce qui t'a plu ? Justement, c'est le moment de parler aussi de ce qui était mieux dans l'éducation que nous, on a reçue. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'éducation que tu as reçue et qui te tient à cœur de reproduire avec tes enfants ? Est-ce qu'il y a des choses ?
Oui, il y a des choses. Bien sûr qu'il y a des choses. Mais c'est constamment en mouvement, je dirais, parce que l'éducation, c'est aussi fait de tests, de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, de déplacer un peu le curseur, de voir comment ça réagit du côté des enfants. Donc c'est une constante remise en question et c'est tout le temps mouvant. Et par rapport à mes parents, par exemple, moi, je très tôt, j'ai dû faire le ménage, aider ma mère parce qu'on était les deux seules femmes à la maison et que les hommes, c'était pas leur truc. Donc, et ça, c'est en plus, ça, c'était officiel, c'était légalisé à la maison. On faisait le ménage toutes les deux. Donc moi, à 7 ans, je faisais la vaisselle, je faisais les lits, je faisais tout le ménage, quoi. Et avec ma fille, ben, je me suis dit que j'avais pas envie de refaire ça. Et bon, après, il faut expliquer. Moi, pour ma mère, une femme qui sait maintenir une maison en ordre, c'est une femme qui est en ordre dans sa tête. Elle, c'est une vision des choses. Mais du coup, moi, je me suis dit, je ne vais pas refaire ça. Je me disais, l'essentiel, c'est que ma fille, quand elle déplace quelque chose, qu'elle sache remettre à sa place, qu'elle sache tenir sa chambre en ordre, tout ce qu'elle elle fait comme bazar, elle le remet en place. Après, de là à aller nettoyer le sol, faire les carreaux et tout, comme moi j'ai pu faire quand j'étais petite, ben non, ça, elle ne le fera pas. Et je me rends compte que ben, j'ai fait ça un temps, et puis maintenant qu'elle est grande, hein, enfin elle est grande, elle est en quatrième, voilà, c'est une ado, pour elle, c'est vraiment pas du tout normal de ranger quelque chose si c'est pas elle qui l'a fait.
Donc, en fait.
Donc, c'est ça. Du coup, je me dis non, mais ça va pas non plus, parce qu'on est une famille et la maison, elle appartient à tout le monde. Et que s'il y a quelque chose qui n'est pas rangé et qu'elle a du temps, que personne d'autre n'a le temps, bah oui, dans ce cas, c'est bien qu'elle le fasse. Voilà, je reviens à me dire que finalement, ce que ma mère faisait, c'était pas si mal que ça, puisque moi, à son âge, j'étais capable de maintenir une maison propre. Voilà, c'est en constante rediscussion.
Les autres ?
Moi, c'est le ménage. Hein. En fait, nous, avec mes cousins, quand on se voit, on rigole parce qu'on se remémore le moment où nos tantes... En fait, nous, on était un ensemble de cousins qu'on ballottait dans une ville à l'autre, tu vois, entre Chartres, Grigny. Et du coup, en fait, quand on arrivait à Grigny, et même à Chartres, on avait des tantes, en fait, qui étaient jeunes à l'époque, tu vois. Et en fait, elles nous levaient le matin à 9h. Levez-vous, dépêchez-vous. Toi, tu laves par terre. Toi, la vaisselle. Toi, tatati. Et tu, si jamais t'osais leur répondre, balayette, tu fais quoi là tu... Limite même.
C'était des temps de thug. Hein.
Et là, elle dit ouvre la bouche là, je vais cracher dans ta bouche.
C'est dégueulasse.
Et du coup, elles nous ont transmis ça, le fait de faire le ménage. Moi, je suis un mec du ménage, tu vois, parce qu'on nous a transmis ça. Faire le ménage, la vaisselle, laver par terre. Et en plus, je kiffe. En plus, tu vois, après, il y a des études qui disent comme quoi, quand tu fais le ménage.
Ça nettoie la tête, c'est vrai.
Ça t'aide à planifier et tout ça. Donc, pendant que je fais le ménage, je planifie tout. Moi, tu sais, comme ça, je dis, ah ouais, tac, tac, ça, je vais faire ça, tu vois. Et du coup, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que mes parents, moi, je les ai beaucoup vus aider les gens, tu vois. Parce qu'en fait. Moi, j'ai eu des souvenirs, là, récemment. Tonton, là, son père, il venait, tu vois, se poser chez moi pour régler ses problèmes avec sa famille, tu vois. Et mes parents, ils écoutaient comme ça. Ils étaient là, ils faisaient les intermédiaires. Non, mais écoute, elle n'a pas dit ça comme ça. Et je voyais ça, en fait, tu vois, des gens qui dormaient chez moi tout le temps, les amis de ma tante. Voilà. Et voilà, mon père, il aidait beaucoup les gens aussi, tu vois. Aller les chercher là-bas, faire ci, faire ça. Et du coup,
Bah, t'es pareil.
Et voilà, je suis un black justicier parce qu'on m'a transmis ça et c'est fatigant aussi, mais bon, c'est comme ça.
Jasmine ?
Moi, finalement, avec du recul et maintenant aussi que j'attends moi aussi mon enfant, etc., j'aime beaucoup de choses dans l'éducation de ma mère et je la respecte et j'espère que je serai aussi une aussi bonne maman qu'elle. Moi, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment le côté émotionnel où je me sentais super loin de ma mère. Et c'est là justement, c'est l'entourage qui m'a aidé à pas combler ce vide, mais à vivre avec ce vide. Parce que j'ai toujours cherché à combler ce manque que j'avais, que ce soit de mon père ou de ma mère, peu importe. Mais j'ai appris à vivre avec ce vide, finalement, et à gérer mes émotions moi-même. Bon, je suis toujours en expérimentation. J'apprends encore à me gérer, à me connaître, etc. Je ne fais plus de crise, je ne pars pas en sanglots pour rien et tout, mais voilà, c'est vrai que c'est plus intériorisé. J'arrive à mieux intérioriser mes émotions, etc. Mais finalement, ma mère, je me dis qu'elle m'a vraiment bien aidée. Elle m'a aidée à être autonome. Et ça, pour moi, il n'y a rien de mieux parce qu'aujourd'hui, je me contente de très peu de personnes, de très peu de choses. Je ne demande jamais rien à personne. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne à qui je dois quelque chose. J'ai été chercher ce que je voulais aller chercher dans la vie, que ce soit du travail, que ce soit mes études. Je ne dois rien à personne, ni même ma mère. Elle a réussi à me rendre autonome au point même que je peux me passer de ma mère, quoi. Genre, ma mère, elle travaillait souvent en déplacement, elle avait souvent deux travails, etc. Et je passais des deux jours, trois jours sans adulte à la maison, quoi. Et j'avais que 12 ans ou 13 ans. Elle m'a vraiment appris à subvenir à mes besoins primaires comme autres. Et ça, je trouve que c'est super bien. J'irais peut-être pas pousser jusqu'à là avec mes enfants parce que moi, je suis là et puis mon mari est présent. Donc, pour l'instant, j'ai pas la nécessité. Mais c'est vrai que le fait que je me contente que de moi-même, eh ben, je vois qu'aujourd'hui, j'arrive à surmonter des choses que d'autres personnes ne pourraient peut-être pas. Donc voilà, c'est juste le côté émotionnel où je pense que, bon, après, on peut pas trop demander non plus, hein, je vais pas, on peut pas être parfait, mais le côté émotionnel, moi, j'aimerais quand même essayer de comprendre mes enfants, même s'ils ont quelque chose qui me paraît pour moi être une petite peine, bah, faut quand même que j'essaye de les comprendre, ou en tout cas de pas laisser, enfin, diminuer leur peine, quoi, de dire, ah non, ça c'est rien, faire comme si, voilà, la peine n'existait pas, etc. Non, peut-être qu'avoir une mauvaise note, bah, sur le coup, en fait, t'as que ça, en fait, t'as 12 ans, donc oui, les notes, c'est important, quoi. Peut-être que, oui, toi, à 22 ans, ça te fait rien, mais maintenant, à 12 ans, oui. Après, ma mère aussi, elle était quand même assez jeune, bah, on a 20 ans d'écart à peu près, donc ça va quand même, elle me comprenait, mais elle laissait rien paraître.
Mmh. Voilà. Ouais, Barberiche et Benjamin. Non, j'allais dire Benjamin Barberiche.
T'allais me laisser.
Non, c'est pas vrai.
Moi, il y a deux choses. La première chose, c'est le respect. C'est le respect des aînés. Parce que nous, c'est vrai qu'au Congo, ça a une grande place. Et en fait, on a toujours une marque de respect, on va dire, envers nos aînés. C'est Yaya. On dit Yaya ou Ya. Et après. Avant, par exemple, le prénom de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important dans ma cellule familiale. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec un oncle. On a 5 ans d'écart. Et c'est vrai que durant toutes nos années de jeunesse, les gens pensaient que c'était mon frère. Mais c'était mon oncle. Et je l'ai toujours appelé tonton. Même aujourd'hui, quand on nous voit... il est à côté de moi, ça peut être mon frère, on peut même penser qu'on a peut-être le même âge, bah, je vais l'appeler tonton. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a transmis parce que bah, quand je commençais à l'appeler par son prénom, on me disait non, c'est pas ton pote, c'est ton tonton. Et moi, je fais la même chose avec mes enfants, c'est-à-dire que mes enfants ont une marque, en fait, donnent une marque à toutes les personnes qui les entourent, c'est-à-dire que même des proches, des amis, ils vont les appeler tonton et tata. Et les cousins, ils vont les appeler yaya, du coup. Et ça, c'est très important parce que du coup, je me rends compte là que mes enfants sont adolescentes, qu'elles ont un respect envers tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, elles respectent tout le monde. Et il y a vraiment cette marque de respect envers l'individu. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que ma mère m'a transmis, le respect. Après, malheureusement, bah, dès lors que tu nous manques de respect, bah, ça devient compliqué. Mais dès lors qu'on reste dans un cadre respectueux, bah, on est respectueux plus. Et la deuxième chose qu'elle m'a inculquée et que j'ai et que je pense qui est indispensable dans ma vie aujourd'hui, c'est le fait de ne pas se plaindre et d'être fort. Après, ça fait cliché, mais je pense qu'en tant qu'homme, en fait, on pourrait dire en tant qu'être humain, mais moi, je dis en tant qu'homme, pour pouvoir répondre à certaines attentes dans un couple, il faut être fort et il faut avoir la tête froide et parfois il faut être dur. Et ça, je sais que je le tiens de ma mère. Donc c'est vraiment deux choses que je garde.
Benjamin.
Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, j'ai envie de dire, alors, du côté de ma mère, qui est quelqu'un assez distant émotionnellement aussi, mais pour plein d'autres raisons, rien à voir avec. J'ai aussi appris l'autonomie, pour le coup, qui nous a toujours beaucoup autonomisé. Moi, j'ai même monté ma première entreprise à 8 ans. Enfin, on gagnait de l'argent en collectif. Hein, on était toujours en collectif, mais voilà, on allait vendre on prenait les commandes de croissants et de pain au chocolat dans le quartier. On allait à la boulangerie le dimanche matin et puis on prenait 10 centimes sur chacun, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été toujours des trucs qui ont été valorisés, enfin que ma mère a laissé un peu. Et du côté, pour le coup, de mon père, ça a été plutôt en fait, ce que j'ai gardé, et ce qui est quand même quelque chose de très marquant, c'est que finalement, mon père était assez loin, un peu dictatorial, mais parce que très émotionnel et en fait très sensible. Et c'était sa manière de se protéger en étant dur. Ça, je trouve que c'est important aussi, parce que parfois, dans la dureté, c'est pas qu'il n'y a pas d'émotion, c'est qu'il y en a trop.
Ouais, c'est vrai.
Aussi. Et que c'est une façon de mettre l'autre à distance pour pas qu'il nous... Et ça, mon père est très comme ça. Et en fait, moi, j'ai vu, par exemple, mon père pleurer devant les nouvelles, beaucoup, quand j'étais petite. Enfin, c'est-à-dire, le moment où il se mettait à pleurer, c'était face aux injustices sociales. Voilà. Enfin, c'était quelque chose qui a toujours été quelque chose de très présent. Et que, pour le coup, je vois qu'il m'a transmis et que j'ai gardé et que j'ai transmis aussi à ma fille, pour le coup. Enfin, et puis, dans le côté peut-être plus éducationnel, familial, un certain rapport au savoir.
aussi. C'est-à-dire tu n'ouvres ta bouche qu'à condition que tu maîtrises ton sujet. Sinon, tu la fermes. Enfin, si c'est pour dire des bêtises, tu la fermes, quoi, en gros. Enfin, donc, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, des études, pas forcément au sens universitaire du terme, mais de lire, de réfléchir, d'aller se renseigner, de se faire son propre avis, de pas aller prendre une information comme ça et la prendre pour argent comptant. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est très, très ancré familialement et que je pense que c'est quelque chose que j'ai reproduit. Aussi, que j'ai, en tout cas que j'ai gardé, que j'ai reproduit avec ma fille.
Oui, merci pour ce témoignage et vos différents échanges. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que vous voyez une différence entre une éducation imposée et une éducation transmise, ou est-ce que pour vous, c'est pareil? Qui se lance?
C'est un sujet de philosophie.
Moi, je vais y aller.
Eh ben,
si ça vous,
ça tombe
si,
bien.
Si ça vous va, ah, je vais y aller. Si vous êtes OK. Ah, hein, je vous sens tous... voilà. Hein. Moi, je dirais qu'une éducation transmise, c'est une éducation qui a été digérée. C'est-à-dire que qui dit digérer, dit métaboliser, enfin transformer en fait. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas de la matière brute qu'on recrache, c'est justement quelque chose dont on va trier les éléments, au sens presque de la digestion. Quoi. C'est pour ça que trier les éléments qu'on a besoin de garder parce qu'ils nous sont vitaux et évacuer ce qui est plutôt de l'ordre du shit, quoi. Enfin, du merdique, hein, au sens... voilà. Enfin, en tout cas, de ce qui ne nous correspond pas ou ne nous sert pas pour nous. Donc, je dirais vraiment que la question de la transmission, ça suppose une certaine digestion, là où parfois, l'éducation inculquée, imposée, en fait, va être quelque chose qui n'est pas digéré. Donc, ça sonne faux. Ça dissonne à des moments. Et on l'entend d'ailleurs. Et c'est pour ça que les enfants, d'ailleurs, face à des éducations imposées, peuvent très vite renvoyer quelque chose de très questionnant et qui va déstabiliser le parent à ce moment-là, parce qu'il va se retrouver dans une difficulté à pouvoir y répondre, parce qu'il ne sait pas pourquoi il fait les choses. Et c'est tout l'enjeu. Moi, je sais que ça a été une question vraiment importante pour moi, c'est-à-dire de suffisamment digérer mon éducation pour pouvoir toujours expliquer à ma fille pourquoi je fais les choses comme je les fais. Enfin, ça a été toujours un truc où je me questionnais beaucoup, parce que je pense qu'être parent, c'est aussi beaucoup se questionner, ce que parfois les générations d'au-dessus ont peu fait, de questionner aussi justement. Et donc, vraiment, la transmission est différente de l'imposition, dans le fait où on peut l'expliquer, on peut lui donner des explications cohérentes et qui permettent à l'enfant de comprendre.
D'ailleurs, on entend souvent les gens, quand ils parlent éducation, utiliser le mot « inculquer ». J'inculque à mon enfant, donc j'impose à mon enfant. Voilà. Je le gave, je lui impose. Sonia, imposé, transmis, toi chez toi, c'est le modèle éducatif.
Chez moi, en tant que parent, c'est un peu des deux. On explique beaucoup, et surtout quand ils étaient petits. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que pour un rien, ils nous disent « mais pourquoi ?» alors que parfois on reprend le c'est comme ça de nos parents. Ça peut arriver maintenant.
Il est efficace. Hein.
Il marche
efficace,
très bien.
C'est comme ça. Donc un peu des deux. On essaie beaucoup d'expliquer quand même. Surtout si c'est des sujets importants, on a envie qu'ils comprennent bien pourquoi c'est dangereux de, je sais pas moi, de sortir à un endroit alors qu'ils sont censés être ailleurs sans nous prévenir. On explique pourquoi ça pourrait être dangereux pour eux, etc. Donc voilà, on explique beaucoup des choses importantes, des choses moins importantes. Des choses assez futiles, ben non, on dit c'est comme ça. Un peu des deux.
Un peu des deux. Jasmine, en tant que future maman, comment tu te projettes dans l'éducation de cet enfant avec une éducation plutôt transmise ou imposée?
Bah, moi, déjà, la différence entre mon mari et moi, c'est que mon mari, déjà, il a des. Enfin, ses parents, ils l'ont eu super tard, donc ses parents ont l'âge de mes grands-parents.
Okay.
Donc lui et moi, on. Rien à voir, quoi. Quand je lui parle de ma mère, il est à des années-lumière. Pour elle, ma mère, c'est comme une tante, comme une sœur, limite. Parce que, on n'a pas du tout le même schéma familial. Lui, il est plus dans le « c'est comme ça ». Et moi, je suis plus dans le « expliquer » quand même. Parce que ma mère, elle était aussi dans le « c'est comme ça ». Et je me dis que ça aurait peut-être pu éviter vachement des conflits où j'ai dû aller chercher des explications du pourquoi, du comment, etc. Alors qu'en fait, juste si elle m'avait expliqué, j'aurais peut-être pas polémiqué autant. Donc moi, je pense qu'il faut quand même expliquer. Et même dans mon métier, avec les enfants qui sont très jeunes, hein, j'ai des enfants entre l'âge de la marche jusqu'à l'entrée à l'école, je leur explique pourquoi il faut partager, comment on vit dans la structure, etc. Je leur explique déjà même à un an, entre guillemets, donc avec mon enfant, je compte expliquer. Après, je vais peut-être avoir recours ou c'est comme ça. S'il y a beaucoup de questionnements derrière, etc., je peux comprendre que le parent n'est pas forcément tout le temps disponible pour expliquer pourquoi, comment. Et que des fois, bah, ça implique aussi de se remettre en question. Et le parent, des fois, bah, il ne se remet pas forcément en question. Mais je pense qu'il faut quand même un minimum expliquer au moins une première fois pour que l'enfant quand même évite de faire des spéculations ou de se demander ah, non, mais pourquoi comme ça. Ah non, mais non, si on m'explique, au moins j'ai la réponse. Quoi. Moi, ma mère, c'était tout le temps, il fallait que j'aille chercher moi-même les réponses. Quoi. C'était un peu chiant. C'est un peu relou.
Barberiche, imposé.
Un mix des deux.
Ou transmise.
Ouais, moi, c'est un mix des deux. Par moment, il faut imposer lorsqu'on est sûr que c'est une bonne chose. Et il faut expliquer. Dès lors que l'enfant nous demande, bon, on lui explique.
Quand il ne demande pas, on ne lui explique pas.
Pas forcément.
Ok. Donc, toi, c'est les deux, un peu comme Sonia.
Ouais, moi, c'est les deux. Moi, c'est les deux. C'est selon les situations, en réalité. Il y a des situations où tu as besoin d'explications, de donner des explications. Tu as besoin d'échanger et d'autres pas. Des fois, c'est comme ça. Tu te rendras compte par toi-même que c'est comme ça et que je te veux du bien. Comme tu sais que je te veux du bien, t'inquiète pas, écoute.
Bouba, imposé ou transmis l'éducation chez toi?
Moi, je suis dans une situation un peu particulière, mais qui est commune à des millions de personnes aujourd'hui. C'est le fait de ne plus être avec les femmes, enfin les femmes ou la femme avec qui tu as des enfants, tu vois. Donc le conseil que je donne à beaucoup de gens, c'est rester avec les mères de vos enfants, car sinon vous allez avoir des problèmes. Et ça, c'est un autre débat.
Il y aura une autre émission.
Il y aura une autre émission pour ça. Rester, parce que ma parole... Parce que le problème, c'est que quelque part, les parents veulent avoir un contrôle. T'as vu ? Et comme dit l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle, tu vois. On veut avoir une espèce de contrôle, mais quand t'es plus avec les personnes avec qui t'as fait des enfants, surtout nous les hommes, il y a un contrôle que tu n'as plus. En tout cas, il y a une bonne marge de manœuvre que tu n'as plus. Donc du coup, je suis pour un mix des deux. Mais parfois, lorsque tu n'es plus avec les gens avec qui tu as fait des enfants, ton imposition, là...
Et puis toi,
elle vaut rien.
Et toi, tu te retrouves dans la situation de ne plus avoir le choix de ton éducation aussi, ouais, en fait.
Tu veux imposer, mais ça ne marche plus, quoi.
Ça ne marche pas, parce que tu n'es pas là. Tu vois, tu n'es pas là au quotidien, tu n'es pas là, et là, tu rentres dans d'autres... Comment dire? Tu rentres dans des bras de fer et tu dis, si j'avais été là... Et je rentrerai pas dans autant de bras de fer, tu vois. Et chose que je comprends aussi, hein, tu vois, parce qu'une fois que t'es plus là, peu importe les raisons, hein, t'es plus là, tu vois. Donc après, bon, là, je suis principalement dans la transmission, tu vois. Je transmets, j'essaie de pas être dans une espèce de force, même si c'est pas forcément, c'est différent d'un enfant à l'autre, tu vois. Il y a ma petite de 7 ans, c'est plus de l'éducation que j'ai, que je lui transmets, n'est pas forcément la même que j'ai avec celle qui a 15 ans, tu vois. Mais restez avec les mères de vos enfants.
On a compris, Bouba. mais des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné aussi.
En effet. Ouais, si, en effet.
Donc on peut pas forcément rester avec la mère ou le père de son enfant.
Rester si c'est possible, t'as vu.
Et sinon, essayer de maintenir le maximum de dialogue.
Ouais,
mais dans la mesure du possible.
Exactement.
Là aussi, parce que c'est pas
d'être dans
gagné.
Une coéducation en n'étant plus avec la mère ou le père de son enfant, ça devrait être obligatoire en fait.
Ouais,
et à un moment donné, mettre un peu de côté les émotions, et parfois c'est difficile, mais quand c'est possible, il y a plein de situations où c'est possible, mais les gens ne font pas l'effort. Et l'intérêt de l'enfant, il passe en second plan. D'abord, l'intérêt de notre haine mutuelle. Et on oublie justement les enjeux.
Et d'ailleurs, à ce propos, si je puis me permettre, messieurs, s'il y a des hommes qui nous écoutent, qui sont en séparation, sachez qu'aujourd'hui, les juges aux affaires familiales privilégient systématiquement la garde alternée quand elle est demandée par le père.
Mmh.
C'est important de le savoir.
Ouais.
Voilà, je permets de le
glisser. Beaucoup de mamans s'en mordent
les doigts. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de papas partent, en fait, de pères, partent perdants, quoi qu'il arrive.
Après, Après, j'allais dire que la différence entre nos parents et nous, c'est peut-être la maturité, mais j'ai vu des actes d'immaturité aussi chez nos parents à l'époque qui étaient bien présents, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas les mêmes adultes. Tu vois, nous, on est ces adultes qui ressemblons beaucoup à nos enfants, parce que y a une transmission directe, en fait. Il y a une filiation directe dans le vécu. Tu es dans le vécu ou même dans l'environnement. On a grandi dans le même environnement que nos enfants, donc. Nous-mêmes, on peut considérer que certains de nos enfants sont des enfants gâtés, souvent ou parfois, mais ils nous ressemblent plus qu'on ressemblait à nos parents.
Moi, je trouve que... En fait, j'arrive pas forcément à faire des comparaisons entre nous et nos parents,
parce que les contextes ils sont totalement différents. Et tout à l'heure, Jasmine parlait du fait que sa mère ne la comprenait pas. Et ben c'est pas parce que tu me comprends pas que j'ai pas de peine, que j'ai pas de soucis, que tout se passe bien. Parce que oui, certes, eux, de leur fenêtre et de leur regard, ils ont l'impression que nous, on sera toujours des privilégiés par rapport à eux. D'une certaine manière, oui. Mais on vit quand même des choses compliquées. Et ces choses compliquées, on les encaisse malgré tout. Donc, moi, j'ai du mal avec ce discours de « Ouais, mais vous, c'est pas pareil. Ouais, mais... ouais, c'est pas pareil, mais ma réalité, elle est différente. » Et les émotions, elles sont quand même là. Donc,
Surtout que quand tu parles d'émotions, bah, si on fait un... En tout cas, si on regarde les enfants là, de cette génération-là, et ils prennent cher.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais
dire. La guerre
en
Irak, ce qui se passe en ce moment entre Israël, Palestine,
les violences policières,
les bavures, le racisme. Parce qu'avant, le racisme, il existait, mais il se verbalisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça pose pas de problème de te regarder droit dans les yeux et te dire, mais sale noir, sale blanc, sale arabe ou ce que tu veux. Ce qui se faisait moins. Aujourd'hui, les gens, ils prennent leur bulletin de vote, ils le montrent à tout le monde, là où avant, il fallait se cacher. Enfin, du coup, les enfants d'aujourd'hui, plus que jamais, ont aussi besoin qu'on accueille leurs émotions, parce que quand on regarde ce qui s'est passé lors des émeutes, il n'y a pas très longtemps, mais les rixes sur certains territoires, il y a quand même une manifestation de la violence évidente qui est peu, voire très mal encadrée. Par les adultes,
parce que finalement qui est mal reçu, même, qui est mal reçu. C'est des appels de détresse, et moi je crois qu'on a une génération qui arrive, enfin en tout cas moi je discute un peu avec des copains de ma fille aussi, donc je les entends là-dessus, et qui disent exactement presque ce que nos parents nous disaient. C'est-à-dire, à votre époque, c'était facile. Enfin, voyez, nos parents disaient, à votre époque, c'est facile, alors que nous, on a connu quelque chose de beaucoup plus dur. Eh bien, les enfants d'aujourd'hui, qui ont une vingtaine d'années, nous disent ça, votre époque était facile. Nous, ça va être beaucoup plus dur. Enfin, nous, on a... En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais on a juste connu le chômage, quoi. Et le sida. Vous voyez, quand même, c'est deux trucs pas anodins, mais c'est avec ça qu'on a grandi. Nos inquiétudes sociales, elles étaient là. La nouvelle génération qui arrive, entre le climat, enfin quand même, enfin c'est pas anodin, quand même la planète qui va exploser, tout le rapport à la consommation qui est en train de bouger, parce qu'ils sont dans l'obligation de faire bouger, donc tout le confort que les 3-4 générations d'avant ont connu et ont mis en avant comme forme ultime de réussite, pour la génération qui arrive, ce n'est plus possible.
Il ne faut pas oublier que c'est eux les parents de demain. C'est-à-dire que là, on a une vague... S'ils veulent l'être, bien sûr. Mais là, on a une vague de jeunes qui subit de plein fouet des violences multiples qui arrivent de partout, qui sont très mal accompagnés. La santé mentale en France, hein, c'est un sujet qui vont devenir rapidement des parents. D'ailleurs, on a Jasmine là qui porte un enfant et qui va mettre au monde
ma fille.
Qui va mettre au monde.
Moi, je pourrais bientôt être mamie, quoi.
Qui va mettre au monde son premier enfant, mais du coup, tout ça, il va falloir quand même se poser, se questionner. Barberiche et Booba, mettre les pieds dans la tasse, c'est pour maintenant.
C'est pour maintenant.
Alors, on y va.
Bah, dans les pieds dans la tasse, aujourd'hui, on voulait aborder deux choses. La première, c'est revenir sur un sport qui aurait dû être aux Jeux Olympiques, le lancer de godasses.
Mais il n'y avait pas que des chaussures qui volaient.
Il n'y avait pas que des chaussures. Mais
moi, j'ai connu les tresses de fil électrique.
Ouais.
Hein,
on va l'appeler pour que ce soit un peu plus glamour, le lancer de godasses. Et malheureusement, les coups de ceinture et autres. Les châtiments corporels. Les châtiments corporels. Parce que moi, j'ai assisté un jour à un débat, Booba, t'étais là, où un individu disait que moi, j'ai reçu des coups et j'ai bien été éduqué. Donc, est-ce que ce n'est pas un oxymore? Recevoir des coups et être bien éduqué. Est-ce que c'est possible d'être bien éduqué en recevant des coups?
Toi, t'as carrément renversé la tasse, quoi.
Ah ouais,
il y a du thé partout.
C'est une très bonne question.
Allons-y. Tout le monde se regarde, tout le monde bégaye.
Tout le monde me regarde.
Non, allez, Sonia.
Merci. Mille merci. Moi, je pense déjà que c'est pas forcément un oxymore qu'on peut être bien éduqué en ayant reçu des coups.
Mais c'est pas la bonne chose à faire, c'est tout. Voilà ce que j'en pense. Je pense qu'on peut éduquer sans jamais mettre de coups et que la personne soit bien éduquée quand même.
Mais est-ce que mettre des coups, c'est bien éduquer? Parce qu'il y a des gens qui disent que moi j'ai reçu des coups et je suis bien éduqué parce que j'ai reçu des coups. C'est grâce aux coups que je suis comme ça.
Je pense que c'est des personnes qui frappent leurs enfants qui disent ça. Je pense que c'est des personnes qui essayent de se défendre de cette manière-là. Mais je pense que moi, ça m'est arrivé de donner des coups à mes enfants et de beaucoup culpabiliser après. Et j'entends souvent dire que les parents qui donnent des coups à leurs enfants, sur le moment, c'est seulement à eux que ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est eux, ça les soulage, ils sont dans un état d'énervement. Ils sont tellement exaspérés qu'il y a un coup qui part et ils se sentent mieux. Et ça, moi, j'y crois véritablement. Je pense que des parents qui donnent des coups, ça les soulage eux sur l'instant, mais que les enfants, ils n'ont pas forcément compris pourquoi. Ils sont pas forcément. Et puis surtout, s'il n'y a pas d'explication derrière, on les laisse se débrouiller comme ça avec un coup. Non, enfin, en tout cas. Pour répondre à ta question, non, il ne faut pas se faire frapper pour être bien éduqué.
Et pour autant, on peut avoir été frappé et avoir reçu une bonne éducation. C'est pas impossible. L'un ne va pas forcément avec l'autre ou sans l'autre, mais ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte peut-être, c'est entre... Et là, je parle par exemple de mes parents qui arrivaient d'un autre continent où l'éducation, elle passait par les coups, uniquement par les coups. Le dialogue, c'était les coups. Bah, du coup, ils ont une autre excuse. C'est qu'ils étaient démunis et ils ont fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, je pense que la société, vu comment elle a bougé, bah, on n'a pas d'excuses. Ça veut dire qu'on a des tas d'endroits où on peut aller chercher de l'aide et s'outiller pour faire face à des conflits avec nos enfants ou à des désaccords si on est démunis. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'excuses aujourd'hui d'essuyer des coups quand on est enfant.
Il a mis les pieds dans la tasse. Moi, je mettrais les mains dans la tasse. À moins que tu voulais...
Non, je ne sais pas si...
Benjamine, elle voulait rebondir et après, les mains dans la tasse, carrément.
Yasmine, tu veux y aller peut-être?
De toute façon, moi, je vais faire court. Moi,
Yasmine, vas-y.
Personnellement, j'estime avoir été bien éduquée et pourtant, mes parents, ils ne m'ont pas frappée. Enfin, ma mère, elle m'a déjà poussée une fois. Bon, ok, mais en fait, c'était plus de la peur, quoi. Elle avait peur que je ne la comprenne pas, que je ne comprenne pas ce qu'elle était en train de me dire. Donc, elle m'a poussée pour me dire, attends, ce que je te dis, c'est important, etc. Et sur le coup, ce qu'elle m'a dit, c'est rentrer dans une oreille, c'est sortir par l'autre. J'étais tellement choquée qu'elle me pousse, peut-être parce qu'elle m'avait jamais frappée, je sais pas, mais j'étais tellement choquée qu'elle me pousse, elle m'a poussée, je me suis cognée contre la table, ça m'a fait saigner à la jambe. Tout de suite après, elle est partie chercher la trousse à la pharmacie et elle m'a soignée, quoi. Donc en fait, ça ne servait à rien du tout, elle m'a poussée pour rien. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce jour-là, c'est pour moi, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre. Mais j'ai juste retenu qu'elle m'a touché, je me suis dit, ah ouais, ok.
Ah ouais, t'es capable de ça.
Moi,
je relate vachement avec ta mère hein, sur ce coup-là. mais c'est vrai que, en fait, c'est dans ce que vous venez tous de dire, mais il y a un autre truc qu'on oublie là-dedans, c'est que déjà, un, je pense que personne ne dit qu'il a eu une mauvaise éducation.
Aussi, de plus en plus quand même.
Non, des gens qui remettent en question leurs parents, oui, mais de dire, je suis mal éduqué.
C'est vrai, ouais. C'est
très rare d'entendre des gens dire j'ai pas reçu une bonne éducation. En fait, donc on va toujours couvrir l'éducation qu'on a reçue. Et ça, c'est aussi important de le prendre en compte parce que on a une espèce d'indulgence quand même presque naturelle vis-à-vis de nos parents qui fait et la violence, ça s'apprend. En fait, ça se transmet et ça s'apprend. Mmh. Et donc il y a aussi ce truc finalement que dans nos sociétés. Quelle qu'elle soit, enfin j'ai envie de dire, enfin non, en fait occidentale, mais comme il y a eu la colonisation, malheureusement, on sait comment ça marche. Mais il y a ce rapport aussi de domination. Et la violence, c'est aussi ça. C'est aussi induire chez l'autre, tu te tais, tu n'es rien, en fait. Et c'est aussi ça qui est quelque chose qui peut être difficile, en tout cas qui n'est pas forcément du côté de l'éducation au sens de l'émancipation, mais qui permet l'obéissance. La violence permet l'obéissance. Ça, c'est clair et net. C'est pour ça que dans un système dictatorial, la violence est partout, justement. Mais la violence n'est pas forcément quelque chose de l'ordre de l'éducation, au sens de l'émancipation, de devenir quelqu'un. Et la violence se transmet. Quand j'ai appris
que ça, ça voulait dire stop, ben en fait, je n'ai pas forcément d'autres repères pour pouvoir le transmettre derrière. Donc si j'ai été... on a tous de la violence en nous, il ne faut pas croire. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette violence? Où est-ce qu'on la met? À quel endroit? Et oui, elle va nous soulager à des moments, et on a tous, enfin, et je pense qu'en tant que parents, on peut tous être amenés à un moment ou un autre à être violents.
Bien
et
sûr.
C'est important de se le dire, parce que ça peut tous nous arriver à un moment d'être débordés, de ne pas avoir les mots, d'avoir une attitude, ou même tout bêtement, le gamin qui traverse devant une voiture, on le rattrape par le colbac et on lui met une fessée, en fait. C'est presque radical.
Il y a des réflexes.
C'est un réflexe, mais ce n'est pas pour autant que c'est de l'éducation. Vous voyez, en tout cas, ça va être quelque chose pour moi qui va être plutôt justement quelque chose d'un aveu d'échec. En fait, quand on en arrive justement à la violence, c'est qu'on est dans l'aveu d'échec. Et qu'on est dans quelque chose qui nous dépasse et que nous-mêmes, on est dépassé. Donc, on n'est pas adulte à ce moment-là, en fait. Et c'est là où il y a quelque chose que je trouve qui est important aussi, qui est de pouvoir se dire, la violence, c'est aussi apprendre les rapports de domination.
Après, heureusement que je n'ai pas la rubrique « Amis renverse la tasse », parce que à quel moment on questionne les gens sur leur éducation? Parce que, tu vois, tu as dit, il y a très peu de personnes qui disent « je suis mal éduquée », mais à quel moment on pousse le débat? Parce que des fois, franchement, il y a des questions qui mériteraient d'être posées et dont la réponse serait quasiment évidente.
Je crois que Bouba, c'était la deuxième thématique de notre rubrique.
Exactement. Bah, c'est les mains dans la tasse, peut-être.
Mettre les mains dans la tasse, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, pour rebondir sur ce dont tu parles, le rapport de domination, j'ai juste un exemple. Un ami à moi du nom de Ludovic, c'est mon gars sûr avec qui on a grandi.
On lui passe le bonjour,
voilà,
d'ailleurs.
Je passe le bonjour.
Salut, Ludo.
Voilà, le Guyanais, comme je l'appelle. Et du coup, un jour, ils étaient en repas de famille avec, avec sa sœur, avec son frère, avec sa mère. Et à un moment donné, il parlait de « Oui, moi, mes enfants, moi, quand j'aurai des enfants, obligé, je vais faire comme maman, elle nous faisait. Vas-y, t'es, je vais, voilà, coup de ceinture, coup de martinet, si et ça. » Sa sœur, elle lui a dit « Non. » Elle a dit « Comment ça, non ?» Elle lui a dit « Mais tu sais qu'en vérité vraie, toutes ces manières d'éduquer les enfants de manière brutale, le martinet, le châtiment corporel, c'est des séquelles dues à l'esclavage, dues à la colonisation, en fait.
Merci.
Et si on va même plus loin, on peut même faire référence au code noir, qui régissait la manière de punir les esclaves, à coups de bâton, à coups de martinet, à coups de ci, à coups de ça.
Pour qu'ils deviennent des machines, quoi.
C'est ça. Et du coup, quand elle a dit ça à son frère, qui est mon ami, il m'a dit, j'ai tout remis en question. Là, je me suis dit, éduquer, c'est pas frapper, c'est pas violenter, c'est pas générer ou pour faire du châtiment corporel à nos enfants, c'est pas ça. Tu vois, et ça l'a vraiment remis en question.
Mais aujourd'hui, parce qu'avec Bouba, des fois, on a des discussions, et moi, des fois, je dis, mais on a été mal éduqués.
Donc toi tu le dis, mais l'exemplaire est là.
Lui c'est le contre-exemple.
Non mais moi parfois, et en discutant avec des gens, il y a des gens qui disent, ouais mais moi les coups ils m'ont forgé, moi les coups ils m'ont éduqué. Mais c'est pas vrai. C'est en fait comme
les coups ça traumatise.
Comme tu le disais tout à l'heure, la personne elle se conditionne, elle essaye de s'auto-persuader qu'elle a été bien éduquée, mais en vrai, elle n'est pas bien éduquée. En fait, les coups, pour moi, ne peuvent pas bien éduquer. Ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que la personne, aujourd'hui, moi, les personnes comme ça, ce que je leur dis, je dis non. Tu as eu les ressources nécessaires, malgré les coups, pour, tout à l'heure, on parlait de libre arbitre, pour prendre les bonnes décisions. Et du coup, tu es devenu quelqu'un aujourd'hui. Mais ce n'est pas les coups qui ont fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oui, mais moi, mes parents, ils mettaient des coups de ceinture, ils m'ont bien éduqué. C'est grâce à ça que je suis devenu comme ça. C'est pas ça. C'est... Moi, en tout cas, je suis pas dans cette réflexion-là.
Moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, on a évoqué dans ce débat-là le fait que, à un moment donné, on a été en rébellion. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis en rébellion, c'est-à-dire, on a essayé de tenir tête, si et ça, face à nos parents. Et moi, je crois que nos parents, là où, leur faute... Enfin, moi, j'ai pardonné à mes parents, moi. À un moment donné, j'ai pardonné à mon père. J'ai compris quand je suis devenu parent. Je dis, j'ai compris.
C'est bon, t'es absous.
Bon. Et moi, je crois qu'à l'époque, surtout dans les années... Enfin, ces années-là, là, 70, 80, 90, nos parents n'avaient pas les armes psychologiques nécessaires pour pouvoir faire autrement. Tu vois, c'est comme si on était dans l'effet papillon... on revenait en arrière et on essayait de revenir. Des fois, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'essaie de revenir dans le passé, comme dans Retour vers le futur, et dire à mon père et ma mère, non, c'est pas comme ça. Mais en fait, ils étaient comme ça. Et l'ensemble des adultes étaient comme ça.
Et ils n'avaient pas le corpus théorique en plus.
Ouais, c'est ça. Et voilà. Et tu te dis, non, faites pas comme ci, faites-le. Non, c'était une mentalité commune et que les gens agissaient de cette manière-là. Ils avaient été éduqués comme ça et ils pensaient qu'ils avaient raison. Tu vois. Et ils ne pouvaient pas faire autrement, émotionnellement, physiquement, intellectuellement. C'était comme ça.
Après, il y a aussi des choses que nos parents ont faites qui méritent d'être soulignées. C'est qu'ils faisaient quand même un peu plus preuve d'exemplarité, de droiture, de citoyenneté, de respect. Aujourd'hui, là, on arrive sur la fin de l'émission, mais je sais que avec tout ce qu'on a dit, bah, les gens vont continuer à débattre s'ils ont écouté l'émission. Forcément, ça va faire naître des conversations. Je vous en pose une dernière pour que vous puissiez débattre chez vous après l'émission. C'est est-ce qu'on peut être ou est-ce qu'on peut donner l'éducation qu'on a reçue dans la société dans laquelle on vit actuellement? Est-ce que l'éducation de nos parents pourrait être appliquée à la date d'aujourd'hui? C'est la question pour finir vos tasses de thé. En attendant...
Je vous ai dit prison, je ne vais pas vous m'écouter.
En attendant, je vous remercie. C'était riche. Comme d'habitude, c'était court. J'espère que vous avez apprécié vos tasses de thé. Et
merci à toi.
Ce moment de partage. Merci, à bientôt.
Merci.
À bientôt.
Merci.
Ciao, ciao. Mon Paris est fait.